RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, oh, ceux sont d'un autre âge. Ils te disent merde, mon cas.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée, non pas mardi matin, mais lundi matin de 7h30 à 8h30, hein, puisqu'il y a eu un petit changement dans la grille des programmes et les horaires des rediffusions. Donc, cette émission sera rediffusée lundi matin de 7h30 à 8h30. Donc, vous pouvez toujours... Et puis, elle sera très bientôt téléchargeable hein, sur le site RESF à la rubrique radio. Pour y aller, c'est très simple, resf.info/radio. À moins que vous fassiez simplement resf.info, vous vous baladez sur le site, vous signez les pétitions et vous trouverez la rubrique radio sur la colonne de un petit peu plus bas, sur la colonne de gauche. Et puis, donc, on aime bien recevoir du courrier. Alors, vous pouvez nous écrire, hein, émission RESF, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Donc ça, c'est par la poste, hein, émission RESF, radio fréquence Paris pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Ou par mail à resf.fpp@gmail.com, hein, resf.fpp@gmail.com. Et puis, comme on est une petite radio qui ne fait absolument pas de publicité, pas d'annonceur, c'est un problème en moins, mais cependant, on a besoin, pour continuer à vivre, de nos auditeurs. Donc, eh bien, vous pouvez nous envoyer des sous. Et alors, si vous nous écrivez par la poste, vous pouvez glisser un petit ou un gros chèque dans l'enveloppe. Et le chèque sera libellé à l'ordre de Association Paris, P-A-R-I-S, pour Programme Associatif Radiophonique d'Intérêt Social. Et si vous nous écoutez en streaming, vous pouvez faire votre don depuis la page d'accueil de RESF, hein, appel à don, RESF, que dis-je, depuis la page d'accueil de Fréquence Paris Pluriel, hein, www.rfpv.net, et vous cliquez sur un onglet que vous verrez qui s'appelle appel à don, et vous pouvez aussi faire ça d'ailleurs pour RESF. Et puis bien sûr, donc la presse libre et indépendante est pas à des petits problèmes de sous, et on a nos copains, amis, camarades, frères du journal CQFD, hein, et donc qui, comme toute la presse indépendante, a des petits problèmes de sous. Donc CQFD, le chien rouge, a besoin de thunes. Alors une solution très simple, hein, vous pouvez vous abonner ou offrir comme cadeau de Noël un abonnement à CQFD, hein, mensuel indépendant s'il en a. Et pour ça, c'est très simple, vous allez sur https://cqfd-journal.org, et là vous trouverez donc la rubrique abonnement. Voilà. Donc aujourd'hui, on fera beaucoup de téléphones, hein, en partie à cause de la grève des transports, mais pas que. Après quelques courtes infos de la semaine, hein, on écoutera un entretien avec Michel Rousseau, co-président de Tous Migrants, puis on recevra un appel de Laure Palin, qui est la directrice de l'ANAFE, hein, l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers. Et c'est presque par hasard si les deux associations qui sont prévues et qui étaient prévues pour intervenir dans notre émission d'aujourd'hui ont reçu hier un prix, hein, donc même le... La mention spéciale du prix des droits de l'homme, donc décernée par la CNDH, hein, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc, on n'avait pas vraiment prévu ça au départ. Hein. On avait surtout prévu donc que Tous Migrants parlerait notamment de la manifestation qui s'est tenue mercredi dernier à Briançon et des procès et de l'état des procès. Donc notamment des maraudeurs, hein, procès de la Solidarité, qui sont en cours. Et voilà, et l'invitation de l'ANAFE était programmée depuis déjà un certain temps. Alors, tout de suite, quand même, quelques informations de la semaine. Hein. Donc, il y a la CIMAD s'est retirée pour une journée du centre de rétention administrative du Médilemlo après une tentative de suicide dans ses bureaux. Hein. Donc, c'était mardi 10 décembre. Un homme a tenté de mettre fin à ses jours dans les bureaux de la CIMAD, au centre de rétention administrative du Médilemlo, avec le câble d'une lampe. Hein. Il a tenté de s'étrangler. Les équipes de la CIMADE ont dû intervenir pour limiter les blessures liées à l'étranglement et alerter les secours. Suite à cet acte, qui s'inscrit dans un contexte de violence institutionnelle extrême, donc une période de retrait de 24 heures a été décidée. Et puis à Hendaye, hein, donc condamnation de 5 détenus qui se sont évadés du centre de rétention administrative. Ils ont pris 6 mois à 1 an d'emprisonnement, assortis de 5 ans d'interdiction du territoire français. Ils ont été interpellés vendredi 29 à Hendaye, donc après avoir tenté de s'évader du centre de rétention administrative. Et ils ont été jugés en comparution immédiate lundi 2 décembre au tribunal de Bayonne. Et jeudi 12 décembre, c'est Chantal Raffnel, hein, militante de la cause des exilés, qui comparaîtra devant la cour d'appel de Nîmes, le procureur ayant fait appel de la relaxe prononcée le 12 juin 2019. Alors pour rappel, hein, le conseil départemental du Vaucluse a porté plainte contre elle, d'abord pour usurpation de fonction. Le motif a été commué ensuite en faux et usage de faux parce qu'elle avait fait des démarches pour scolariser un mineur non accompagné, acte que l'aide sociale à l'enfance, hein, l'ASE, était censée faire. Donc l'ASE du Vaucluse ne scolarise pas les mineurs dont la minorité est contestée et c'était bien le cas, mais du gamin qui s'appelle Ben. Il a ensuite été reconnu mineur d'ailleurs par le juge des enfants. Alors Chantal a juste commis l'erreur d'avoir omis de barrer sur la fiche d'inscription, une des mentions responsable légale, tout en se présentant comme militante RESF. Hein, erreur qu'elle a reconnue lors de son audition et qu'elle n'a jamais réitérée. Si l'ASE avait eu la diligence de scolariser Ben, Chantal n'aurait pas eu à compléter ce formulaire d'inscription, et donc pas à commettre cette erreur. Alors ce procès représente quelque chose de fort pour les militants et militantes, et plus particulièrement celles et ceux du RESF. Hein, nous n'accepterons jamais qu'une militante ou qu'un militant soit condamné simplement parce qu'il a pris l'initiative citoyenne d'aider à donner un traitement digne et responsable à un mineur en aidant à le scolariser. Alors que le service public doit remplir cette fonction, il ne le fait pas. Alors on pourra réécouter les émissions qu'on a fait avec Chantal Raffnel, des 17 avril et 15 mai dernier. Donc sur les archives, hein, resf.info/radio, et vous descendez donc sur les émissions 17 avril et 15 mai. Et puis, dernière info de notre journal et pas la moindre, le Conseil d'État confirme le caractère facultatif des recours aux téléservices et reconnaît implicitement l'illégalité des décisions rendant obligatoire la prise de rendez-vous par Internet quand on veut avoir un rendez-vous, donc pour déposer son dossier de régularisation. Donc c'est illégal. Alors pour ça vient tout juste de sortir, hein. Donc pour ça on peut se rapprocher des collectifs RESF locaux pour voir les mesures mises en place pour contraindre les préfectures. L'État doit respecter la loi. Et donc on va tout de suite maintenant écouter Michel Rousseau, qui a été enregistré ce matin par téléphone depuis Briançon. Donc Michel Rousseau tout de suite. Bonjour Michel Rousseau, tu es président de l'association Tous Migrants à Briançon.
Co-président, c'est une présidence collégiale.
Tu vas nous annoncer une nouvelle, à la fois une bonne nouvelle, une nouvelle assez surprenante et assez paradoxale.
Oui, en fait, on est primé, l'association a reçu la mention spéciale du prix des droits de l'homme de la République française, qui est attribué, alors pas par le gouvernement français, mais par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une instance à la fois officielle mais indépendante du gouvernement, un peu comme le défenseur des droits. Ouais. Et c'est donc une institution qui est en charge de veiller au respect des droits de l'homme en France, mais aussi dans le monde entier.
Ouais.
Et ce prix annuel est décerné la plupart du temps à des organisations étrangères.
Ouais.
Encore le cas cette année, mais il y a une particularité cette année avec la distinction de deux associations, l'ANAFE et Tous Migrants,
ouais.
pour notre action en faveur du respect des droits de l'homme dans notre propre pays.
Ouais.
C'est là où il y a un paradoxe, puisque le pays, d'une certaine manière, donc il y a une reconnaissance par cette commission qui fait un travail remarquable en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement, parce qu'elle dénonce, comme le défenseur des droits d'ailleurs, ou ou la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Ces organismes dénoncent les atteintes aux droits dont est responsable notre propre gouvernement dans le pays dit des droits de l'homme. Et donc c'est une manifestation de la part de ces institutions d'indépendance que de faire ce genre de rapport, de dénonciation, mais aussi de consacrer une association comme l'ANAFE ou le Tous Migrants par rapport à nos propres actions de dénonciation des dérives de l'état de droit et des atteintes graves qui résultent de la politique gouvernementale envers les exilés.
Toi ou d'autres personnes de Tous Migrants interviennent régulièrement dans cette émission et vous faites à la fois, donc vous faites partie des gens qui sont possiblement les plus qui subissent le plus de procès puisque vous êtes des grands délinquants de la solidarité, hein, des grands délinquants solidaires.
Donc oui, il y a une quinzaine de personnes qui sont poursuivies dans le Briançonnais, dont plusieurs responsables de notre association, hein, poursuivis, condamnés en première instance.
Ouais.
Bon, pour l'instant, il y a Pierre Mimbert qui a été relaxé en appel,
ouais.
Mais un autre maraudeur a été condamné aussi en appel. La relaxe de Pierre s'explique par la chance qu'il a eue d'avoir la présence de journalistes à ses côtés qui ont filmé ce qui s'est passé, qui ont refusé de donner leur film à la police et qui ont pu ainsi, dans la mesure où à la cour d'appel, les rushs ont été visionnés par le tribunal, et donc ces rushs ont permis d'établir que les policiers avaient menti, ont fait défaut. Hein, et donc c'est grâce à la présence de ces journalistes courageux que Pierre a pu être relaxé. On n'a pas toujours la chance d'avoir des journalistes à nos côtés et en plus des journalistes courageux qui sont capables de résister aux pressions de la police. Ben voilà dans la situation dans laquelle on est. S'il n'y avait pas eu ces journalistes à côté de Pierre et s'ils n'avaient pas refusé de donner leur rush à la police, ben Pierre il aurait été également condamné.
Ouais.
On est vraiment dans un état schizophrénique qui, d'un côté, par des belles déclarations, que ce soit à la tribune de l'ONU ou à d'autres occasions, donc prétend respecter le droit. Et en fait, dans la pratique, de plus en plus de gens se rendent compte dans les rues et ailleurs, en fait, il y a une véritable barbarie qui s'exerce à l'égard des personnes étrangères et des personnes exilées en particulier. C'est tout à fait lamentable et scandaleux, quoi.
Une des actions de Tous Migrants, donc c'est d'une part de faire des, enfin c'est surtout de faire, je crois, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, de faire des maraudes dans la montagne. Et ces maraudes, ça va servir d'une part à sauver des vies, d'autre part à dénoncer.
Oui, donc la participation aux maraudes, elle s'est imposée à beaucoup de citoyens du Briançonnais lorsque les gens ont commencé à passer par la montagne au cours de l'hiver 2015-2016. Et notre association donc a encouragé tout le monde à s'impliquer de manière pour rester digne, pour conserver notre humanité vis-à-vis des personnes qui donc se trouvaient en situation mise en danger par la politique de refoulement systématique de l'État. Et donc on incite tous les citoyens donc à se rendre solidaires, hein, et à avoir des gestes de soutien d'entraide auprès de ces personnes qui peuvent passer justement par une aide du type maraude, mais plus simplement ça peut aussi consister à réchauffer les gens, les faire rentrer chez eux, les descendre à Briançon, enfin tout, un tas de choses qui continuent de se faire de manière totalement anonyme, comme aussi de participer à l'accueil d'urgence, enfin toute une série de gestes qui sont des gestes d'entraide, mais effectivement qui se heurtent aujourd'hui depuis le début, qui se heurtent à la répression d'une partie des forces de l'ordre sur de consignes de la préfecture et du procureur. C'est ce qui permet de voir qu'on a ici sous nos yeux, hein, parce que d'autres le voient à Calais ou dans les rues de Paris, à Hendaye, à Menton, c'est ce qui permet de voir qu'on a un pays a un gouvernement qui se comporte de manière aussi barbare que d'autres pays à la périphérie de l'Europe, et qui nous font honte, qui nous font honte et qui nous rappellent de vraiment de sinistres périodes. Et par conséquent, on peut pas supporter, on peut pas c'est il faut absolument que tout le monde réagisse en fonction de ses possibilités face à ces dérives extrêmement graves qui nous emmènent dans le mur, hein, et qui sont des politiques criminelles. Il faut dire les choses par leur nom, il y a des gens qui meurent. Et voilà, nous on est à 5 morts à notre porte ici, des gens handicapés à vie, voilà, donc, et puis tout, des milliers de gens traumatisés moralement, donc c'est tout à fait, c'est parfaitement insupportable. Et c'est en fait que dès lors qu'on est confronté à ça, on s'informe un peu plus et on se rend compte que c'est une politique qui est généralisée à l'échelle européenne, avec des choses horribles qui se passent dans des pseudo-camps où sont parqués les gens, que ce soit enfin à la périphérie de l'Europe, hein, ou dans les pays où beaucoup de gens vont en vacances, en Grèce, ailleurs, en Turquie, et sans parler de la Libye qu'on connaît maintenant un petit peu mieux grâce aux médias et aux ONG. Mais voilà, donc on a affaire à une politique organisée où on se rend compte que la politique criminelle de l'Europe et de notre propre pays rejoint en fait les pratiques criminelles de bandes organisées qui font fortune sur la misère humaine. C'est terrible quand on prend conscience de tout ça, mais pour un tas de gens qui étaient à milieu de penser que voilà, qui pensaient qu'on vivait dans un pays démocratique, c'est un tas de certitudes qui s'effondrent. D'un seul coup, on se rend compte qu'on est gouverné par des barbares, par des gens qui vraiment qui font preuve d'un cynisme ahurissant. Et peut-être que les gens plus politisés, plus informés savaient tout ça depuis longtemps, mais pour la plupart d'entre nous, c'est une découverte qui, c'est comme si le sol s'effondre sous tes pieds, quoi. Tu te rends compte qu'on, voilà, on vit dans un État qui fonctionne sur la violence. Alors bon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en rendent compte dans d'autres champs que celui de l'aide aux migrants, puisqu'on prend conscience que quel que soit maintenant le domaine, dès lors que t'es pas content, et ben tu t'en prends plein la gueule. C'est le cas des gilets jaunes, c'est le cas des mouvements sociaux en général, c'est le cas de tous ceux qui luttent sur le champ dans le domaine de l'écologie et du combat contre le nucléaire. Voilà, il y a vraiment une dérive répressive de l'État qui est extrêmement grave et qui doit inciter un maximum de gens à réagir si on veut pas sombrer encore plus loin dans la barbarie, quoi.
Une de vos actions, c'est aussi donc la dénonciation en justice, finalement, d'actes de barbarie ou d'actes administratifs tout à fait douteux et
Oui, ben le droit est voilà notre credo. À tous migrants, c'est les droits fondamentaux. Hein, on est depuis 48, sans remonter à la Constitution de 1789. Donc depuis 1948, il y a des droits qui sont universellement reconnus. Après d'ailleurs deux guerres mondiales terrifiantes, donc on s'appuie sur cette Déclaration universelle pour exiger le respect de ce qui a été reconnu comme absolument nécessaire pour la paix sur la planète. Donc c'est ça ça permet de réunir un maximum de gens, quelles que soient leurs orientations politiques, et donc de mobiliser tout un territoire pour que sur ce territoire, eh bien voilà, on se rapproche le plus possible de ces valeurs universelles. Et que le droit, notamment par exemple, le droit de quitter son pays, d'y revenir, le droit de trouver asile dans un autre pays soit respecté. Et que la dignité, le droit à la vie, qui est le premier droit de base élémentaire, eh bien, il soit respecté. Or, quand on met les gens en danger dans la montagne, eh bien, on bafoue le droit à la vie, on bafoue le droit de frapper à la porte d'un autre pays pour trouver asile, on bafoue le droit de circulation des êtres humains, alors qu'il a de tout temps, il a bien fallu qu'on puisse circuler. Voilà, donc ça fait au moins trois motifs d'atteinte aux droits fondamentaux, et c'est la raison pour laquelle on essaye de mobiliser tout un territoire, et nous, sur ce territoire, justement, de se comporter dans le respect de ce droit, de ces droits. Et c'est ce qui se passe, hein, parce que c'est là qu'on voit que l'État, les institutions ne sont pas du tout monolithiques. Par exemple, tous les professionnels de santé, que ce soit en médecine de ville ou à l'hôpital, la plupart d'entre eux se comportent tout à fait normalement vis-à-vis des personnes étrangères. Ils ne sont pas là à leur demander leurs papiers pour les soigner. On soigne les gens parce que voilà, c'est les gens qui méritent d'être soignés, peu importe leur situation administrative. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. On a quelques exemples de membres des forces de l'ordre qui se sont comportés normalement. Et donc ça nous encourage à ce que tout le monde, vraiment tout le monde, sans aucune exception, se rappelle que nous sommes des êtres humains et les autres aussi, et on doit se comporter tous dignement les uns vis-à-vis des autres. Sinon, c'est la barbarie. Voilà. Et ça, il n'en est pas question.
Tous migrants avec d'autres associations collectives, dont les États généraux de la migration, avaient organisé, notamment aux frontières, donc à Briançon, à Calais, mais je crois aussi à Hendaye, et une manifestation et qui a été tout à fait intéressante. C'est ce que tu peux nous dire, ce qui s'est passé à Briançon?
Oui, alors c'est une initiative nationale de cinq organisations qui soutiennent les acteurs locaux aux frontières. Donc ces cinq associations, ce sont Amnesty, la CIMADE, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique Caritas France. Donc elles ont décidé, en accord avec les associations locales, d'organiser une manifestation nationale qui s'est déroulée le 4 décembre dernier, donc à Menton, à Hendaye, à Briançon, à Calais, à Grande-Synthe, à Londres. Et à Briançon, on a réuni 400 personnes, ce qui est extraordinaire compte tenu de la taille de la population locale. Ça représente quand même, si on mettait ça en proportion, ça ferait une énorme manif à Paris, exceptionnelle. Et en plus, en pleine journée, donc ça, on a pu faire une chaîne humaine depuis une partie de la ville jusqu'à la sous-préfecture, et puis énoncer des discours, rappeler un certain nombre de témoignages dont on a résumé des extraits marquants sur des pancartes qu'on utilise dans nos différentes manifestations pour justement rappeler toutes ces atteintes, tous ces droits qui sont bafoués à la frontière. Et donc, on a aussi évoqué ce prix, puisqu'on savait à ce moment-là que la CNCDH nous avait accordé une mention spéciale. Donc, on a pu évoquer publiquement ce paradoxe. Voilà, de devoir défendre les droits de l'homme dans le pays dit des droits de l'homme, jusqu'à se voir récompensé par une institution de notre pays, mais une institution indépendante. Hein. Si ça avait été l'État, évidemment, on aurait refusé. Mais bon, évidemment, l'État n'aurait jamais eu l'idée de nous récompenser. Mais si ça avait été le cas, on aurait refusé, parce que pour le coup, ça aurait été une mascarade. Ce n'est pas le cas. Hein. La CNCDH, tout le monde n'a pas toujours compris cela, mais ce n'est pas le gouvernement français. La CNCDH, elle a fait la preuve, c'est une organisation indépendante. Et elle a fait largement la preuve de cette indépendance, justement, dans le cadre de ces différents travaux qui mettent en évidence le non-respect par le gouvernement français des droits fondamentaux et des droits des étrangers en général. Hein. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Michel. Peut-être tu as quelque chose à ajouter?
Non, c'est vrai que tu évoquais tout à l'heure les actions judiciaires que l'on conduit. Bon, l'État nous poursuit pénalement, il nous pourchasse. Encore, par exemple, là, toutes les nuits, il y a des gendarmes ou des policiers qui harcèlent les maraudeurs, qui essaient de trouver qui les suivent pour les empêcher de faire de réaliser leur action humanitaire, pour nous empêcher de faire ce travail, et surtout pour essayer de nous coller des amendes nous provoquer. Voilà, il y a encore deux personnes, deux maraudeurs qui seront convoqués au tribunal. Bon, j'espère qu'ils seront relaxés, mais on voit bien qu'il y a une partie des forces de l'ordre qui agit sur ordre, hein. C'est pas des gens qui agissent comme ça sans ordre. Donc, il y a bien une volonté délibérée, alors soit ça vient de la préfecture, soit ça vient du procureur, vraiment de mettre un maximum de bâtons dans les roues et de criminaliser l'action solidaire qui, par ailleurs, est récompensée par la CNCDH. Voilà. Donc, voilà le pays dans lequel on est. Mais nous, face à ces gens-là, donc ils sont des hors-la-loi, hein. Ils ont le pouvoir, mais c'est eux qui sont hors-la-loi, hein. C'est eux qui en plus utilisent donc une violence réelle contre les exilés, qui les mettent en danger. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils sachent que nous, on lâchera rien et que dans la mesure tout, on mettra tout en œuvre, et on l'a commencé de le faire, pour dénoncer leurs propres crimes. Hein, donc on va en justice, on ira en justice chaque fois que possible, on a commencé, et on accumule les signalements, les témoignages qui nous permettent de dévoiler, de démasquer leurs forfaits. Hein. Et voilà, on est quand même dans un pays qui est dirigé par des bandes de délinquants, quoi. Hein, c'est ça, on le voit dans d'autres affaires financières et autres, hein, mais par rapport à des... Ils vont jusqu'à la violence humaine, physique, contre les exilés et contre les solidaires. Enfin, je trouve ça, c'est hallucinant, quoi.
Merci beaucoup, Michel. Et puis, le micro de Fréquences Paris Pluriel, t'es toujours grand ouvert, hein, donc t'hésites pas à nous rappeler. Et puis, j'espère qu'on se verra soit à la capitale, soit dans le Briançonnais, soit ailleurs pour... faire une émission autrement que par téléphone.
Ok, merci.
Voilà, bien, merci beaucoup et puis à très très bientôt.
À bientôt, voilà. Au revoir.
Au revoir. Bah, toujours à l'écoute du RESF, hein, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, en streaming partout dans le monde, donc à Briançon. Et on vient d'écouter donc Michel Rousseau, qui est co-président de l'association Tous Migrants, enregistré ce matin par téléphone depuis Briançon. Et je propose qu'on fasse une courte pause musicale en écoutant, Je suis venu de Francis Bébé, avant de retrouver Laure Palin de l'ANAFE.
Je suis venu chercher du travail. J'espère qu'il y en aura. Je suis venu de mon lointain pays pour travailler chez vous. J'ai tout laissé, ma femme, mes amis, au pays tout là-bas. J'espère les retrouver tous en vie le jour de mon retour. Ma pauvre mère était désolée en me voyant parti. Je lui ai dit qu'un jour je reviendrai mettre fin à sa misère. Regardez-moi, je suis fatigué d'aller par les chemins. Voici des jours que je n'ai rien mangé. Auriez-vous un peu de pain? Mon pantalon est tout déchiré, mais je n'en ai pas d'autre. Ne criez pas, ce n'est pas un scandale. Je suis seulement je suis venu chercher du travail, j'espère qu'il y en aura. Je suis venu de mon lointain pays pour travailler chez vous. La 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 la
Toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue. Et on écoutait, je suis venu chercher du travail, de Francis Bébé. Et je crois que Laure Palin vient de nous rejoindre au téléphone. Allô Laure ?
Oui.
Oui, bonjour Laure, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Ça va. Donc tu nous appelles, on n'avait pas prévu de faire cette émission par téléphone, mais compte tenu de la grève que nous soutenons à SPP d'ailleurs, donc ça se fait par téléphone.
Tout à fait.
Voilà, et donc tu vas nous parler un petit peu de l'actualité des frontières, de l'actualité de la NAFE, et notamment d'une décision au Conseil d'État qui est très importante pour la NAFE et pour tous les gens qui sont à la frontière.
Oui, alors c'est une décision du Conseil constitutionnel, oui, qui est très importante, mais surtout très décevante, qui concerne l'assistance d'un avocat lors des auditions avant et après les décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente.
Ouais.
Peut-être pour vous rappeler un petit peu le cadre de ce qu'est une zone d'attente. Donc la zone d'attente, c'est un lieu privatif de liberté où peuvent être privés ou peuvent être enfermés des personnes lorsqu'elles essaient de rentrer sur le territoire français dans des ports, des aéroports ou des gares internationales. En fait, la zone d'attente, concrètement, c'est une fiction juridique. Où la personne est réputée ne pas être rentrée sur le territoire, mais...
Excuse-moi Laure, mais il y a ton téléphone a un son qui n'est pas très très bon.
Oui, alors attends, je vais essayer autrement.
Oui, c'est... Allô ?
C'est mieux.
Voilà.
Oui. C'est mieux ?
Bah écoute, parle, j'espère que ce sera mieux, ouais.
Bon, très bien. Alors, du coup...
Oui, ça a l'air d'être beaucoup mieux.
Ok, parfait. Du coup, la zone d'attente, c'est une fiction juridique où peuvent être privées de liberté, comme je le disais, les personnes à qui on refuse l'accès au territoire français ou Schengen. Globalement, ça inclut il s'agit en fait de la porte de l'avion ou du bateau jusqu'au contrôle de la police aux frontières et des salles spécifiques dans les aéroports et les ports où les personnes peuvent être maintenues le temps de faire la procédure. À cela peuvent être adjoints des lieux d'hébergement qui sont dits de prestations de type hôtelier qui en pratique ne sont pas du tout des lieux de prestation, enfin ne ressemblent en rien à des hôtels. Et du coup, les personnes peuvent y être maintenues pour un maximum de 26 jours. Au moment en fait où les personnes elles arrivent aux frontières et qu'elles font l'objet d'un contrôle, donc il y a plusieurs types de contrôles lorsqu'on arrive aux frontières, il y a un contrôle qui peut être un contrôle dit passerelle, c'est-à-dire au moment en fait où on sort directement de l'avion, quand on est encore sur la passerelle, où du coup il peut y avoir un contrôle de police pour vérifier les documents des personnes. Et après il y a le contrôle plus traditionnel, le contrôle en aubette, c'est celui où la police, enfin les aubettes sont les petits locaux où la police aux frontières va contrôler les passeports, les visas. Et ensuite il peut y avoir, le cas échéant, un contrôle dit de seconde ligne qui va avoir lieu dans le bureau de la police juste à côté. Et dans le cadre de ces contrôles de seconde ligne, des auditions peuvent avoir lieu. Alors, ce qu'il faut savoir avant de rentrer vraiment sur la question des auditions, c'est que les personnes peuvent, enfin, les catégories de personnes qui peuvent être maintenues en zone d'attente. Il y a des demandeurs d'asile aux frontières qui peuvent être maintenus. Mais également des personnes qui sont en transit interrompu, ça va être des personnes qui vont aller dans un pays hors Schengen et qui viennent d'un pays hors Schengen et qui vont transiter par un aéroport, mais elles vont être bloquées parce que la police aux frontières ou les compagnies aériennes vont considérer qu'elles ne remplissent pas les conditions pour entrer sur pour transiter ou pour entrer sur le territoire de destination. Et la plus grande catégorie de personnes qui peuvent être maintenues sont les personnes dites non admises. Ça va être des personnes qui ne vont pas remplir les conditions d'entrée sur le territoire ou qui vont être considérées par la police comme étant un risque migratoire. Donc les conditions pour entrer sur le territoire, c'est avoir un passeport valide, authentique et en cours de validité, un visa authentique et en cours de validité pour les ressortissants de pays soumis à visa, une condition d'hébergement liée à une condition de ressources. Donc si vous avez un hébergement, une attestation d'hébergement en fait en mairie Vous pouvez avoir, enfin, vous devez avoir les garanties financières de 35 euros par jour de présence sur le territoire. Si vous avez une réservation d'hôtel payée, vous devez avoir la preuve d'avoir 66 euros par jour de présence sur le territoire. Et si vous avez aucune garantie d'hébergement, il faut que vous ayez la preuve d'avoir 120 euros par jour de présence sur le territoire et par personne. Mmh. À cela s'ajoute une assurance de voyage, ouais, et la garantie que vous allez bien repartir, à savoir un billet retour. Si vous avez toutes ces conditions, vous pouvez quand même être maintenu en zone d'attente si le motif de votre voyage n'est pas considéré par la police comme étant en adéquation avec les raisons invoquées, notamment pour demander votre visa. Et donc ça, c'est une condition qui est extrêmement subjective, totalement subjective, qui est souvent liée à la notion de risque migratoire, qui est une notion qui n'est pas du tout définie juridiquement, mais qui est utilisée par la police aux frontières, et par le ministère, et même par les responsables politiques, pour justifier en fait les politiques migratoires aux frontières de plus en plus restrictives. Du coup, la vérification de toutes ces conditions, elle se fait lors des contrôles, et notamment dans le contrôle de seconde ligne. Mmh. Et donc les personnes du coup vont être auditionnées, et en fonction de ce qui va ressortir de l'audition, elles vont soit être admises sur le territoire, soit être privées de liberté en zone d'attente, ou éventuellement être refoulées immédiatement. Une fois que la procédure de refus d'entrée ou la procédure de maintien en zone d'attente est faite, les personnes peuvent faire l'objet d'une seconde audition dans un cadre similaire, par la police aux frontières. Mmh. Et en fait, bien souvent, c'est lors de ces auditions qui, en fait, selon les témoignages récoltés par l'ANAFE et par les avocats, bien souvent les personnes nous racontent que du coup on leur a demandé d'avouer le véritable motif de leur voyage, que bien souvent on remet en cause leur parole, et bien évidemment sous la pression les personnes craquent et avouent un motif de voyage qui n'est pas celui auquel pour lequel elle se présentait sur le territoire. Par exemple, une personne qui va venir pour du tourisme, on va lui poser des questions pour savoir si elle aimerait bien trouver un travail dans le pays où elle va aller, par exemple en Espagne ou en France. Et à force de questions et de pressions, les personnes peuvent être amenées à avouer un motif qui n'est pas celui pour lequel elles viennent. Mmh. Du coup, s'est posé la question de la présence de l'avocat lors de ces auditions, parce que ce sont des auditions incriminantes et ce sont des auditions qui ont lieu sous contrainte, c'est-à-dire que la personne, elle est auditionnée par la police aux frontières, elle peut pas s'en aller de manière, comme ça. En plus, il faut le replacer cela dans le contexte d'une arrivée sur le territoire, parfois pour des raisons liées à des traumatismes ou à des violences. Et du coup, les personnes vont avoir, ne sont pas assistées lors de ces auditions, et du coup, ce qui peut les mettre en danger. Ce qui se passe, c'est que pour les droits applicables en zone d'attente, ce qui est prévu, et ça, c'est une fois que les personnes ont fait l'objet du refus d'entrée, du maintien en zone d'attente, elles peuvent demander à communiquer avec un conseil. Mmh. Ce qui n'est absolument pas la même chose que d'avoir le droit à un avocat, le droit d'être accompagné par un avocat. Et en fait, de ce fait-là, dans le cadre du travail effectué par une avocate du barreau de Bobigny, une personne qui avait été maintenue, qui avait fait l'objet d'un refus d'entrée et qui avait été ensuite maintenue en zone d'attente en juin 2019, qui avait le seul motif en fait de son refus d'accès, de son refus d'entrée et de son maintien en zone d'attente sont liés au fait que d'une de ses auditions, elle aurait admis à venir pour travailler alors qu'elle ne venait pas pour cela, et cette audition a permis plus tard, de, pour le juge des libertés et de la détention, de prolonger le maintien en zone d'attente.
Mmh.
Donc, on voit bien, en fait, que la, les auditions avant et après le maintien en zone d'attente sont, sont extrêmement importantes pour les personnes, et notamment pour la question de, leur, de, la, privation de leur la privation de liberté.
Mmh.
Et à aucun moment donné, il y a un avocat. Et du coup, l'avocate a porté cette question devant le juge des libertés et de la détention en demandant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en posant la question des droits de la défense lors de ces auditions-là. Donc, le JLD a d'abord transmis, la Cour de cassation a également transmis...
Alors, JLD, c'est le juge des libertés de la détention.
Oui,
hein.
Le juge des libertés de la détention, puis ensuite la Cour de cassation ont transmis cette question au Conseil constitutionnel, qui, a rendu sa décision le 6 décembre, tenu l'audience le 26 novembre, et le Conseil constitutionnel a rendu une décision extrêmement décevante où il n'a pas du tout déclaré non conforme à la Constitution les deux articles qui étaient en question, mais au contraire, il a validé ses principes en précisant qu'il s'agissait pas d'audition, il s'agissait d'audition à caractère administratif et que du coup il n'y avait pas lieu de mettre en place une présence d'avocat lors de ces auditions. Du coup, quel est le résultat, c'est qu'en fait la zone d'attente est à nouveau le seul lieu où la contrainte et la privation de liberté peuvent s'exercer sans la présence d'un avocat. C'est extrêmement grave, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la rétention administrative, de la retenue administrative, bien évidemment de la garde à vue, mais c'est le cas pour la zone d'attente et ça continue d'être le cas. Ce qui, pour nous, pose un vrai problème, nos organisations, parce que du coup, la question prioritaire de constitutionnalité, elle a été soutenue par l'ANAFE, bien sûr, par le JPI, la DDE, le Syndicat des avocats de France, mais aussi par l'Ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis et également le Conseil national des barreaux. Donc, toutes ces organisations, du coup, sont intervenues à l'audience pour justement appuyer la nécessité d'avoir des avocats présents lors des auditions par la police aux frontières.
Ok, donc c'est une très vieille revendication et peut-être même à l'origine de l'ANAFE de pouvoir avoir des avocats en zone d'attente.
Ça fait effectivement partie des revendications principales de l'ANAFE, de demander une permanence gratuite d'avocats en zone d'attente pour permettre justement l'exercice plein et entier des droits de la défense.
Oui, ça c'est quelque chose qui est... Je veux dire qu'il serait évident si le droit français s'appliquait en zone d'attente. Alors avec cette espèce de fiction juridique, le droit français ne s'applique pas en zone d'attente. On n'est pas en France en zone d'attente.
Et le Conseil constitutionnel vient une nouvelle fois de le démontrer en montrant que les droits de la défense ne s'appliquent pas en zone d'attente.
Voilà. Donc ça.
Ce qui est extrêmement problématique parce qu'au-delà de la question de la privation de liberté, de la contrainte. Et de la pression, il y a toute la question de l'arrivée sur le territoire, de l'interprétariat, de la compréhension de la procédure qui est appliquée, qui sont souvent des problématiques qui du coup nous sont remontées du terrain et où l'on se rend bien compte que les auditions, qu'elles aient lieu avant ou après les décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente, sont fondamentales en fait pour la suite de la situation de la personne et les conséquences et qui a du coup des conséquences importantes sur la privation de liberté.
Oui, surtout qu'on rencontre beaucoup en plus de situations qui sont totalement abracadabrantes et dramatiques. Hein. C'est un des seuls endroits où les enfants sont enfermés avec des adultes et comme tout le monde.
Oui. Exactement, oui, parce que du coup, ces auditions, toute cette procédure, elle s'applique aussi à des mineurs, donc qu'ils soient accompagnés, mais également à des mineurs isolés, parce qu'il faut le rappeler, la zone d'attente, c'est le seul lieu de privation de liberté administrative où des mineurs isolés peuvent être privés de liberté. Ouais. On a d'ailleurs aujourd'hui un enfant qui est venu avec sa mère et qui a été considéré, enfin, du coup, l'administration a considéré qu'ils n'étaient pas remis en cause en fait l'acte de naissance.
Ouais.
Et du coup, ils sont séparés en zone d'attente et ils sont actuellement maintenus. Et ce qui pose un problème déjà en termes de séparation de famille, mais aussi au regard de l'âge du mineur.
Oui, c'est un peu fou, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà, et puis on a vu des gens, on a même vu il y a quelques années une dame qui était française, qui était maintenant en zone d'attente, et qui travaillait au ministère de l'Intérieur et qui a été obligée d'appeler ses copains au ministère pour qu'on puisse la libérer.
Oui.
Et sinon, donc, il y a une autre chose aussi qui est assez surprenante et, ma foi, plus agréable. Ça fait partie des bonnes journées, des bonnes nouvelles. On a des très mauvaises nouvelles et puis on a parfois des bonnes nouvelles. C'est oui. Que l'ANAFE a été a reçu la mention spéciale du prix des droits de l'homme hier. Avec tous ces migrants délivrés par la CNDA.
C'est la CNCDH, oui.
CNCDH, pardon.
Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui effectivement a décerné une mention spéciale à l'ANAFE et à tous ces migrants dans le cadre de leur prix des droits de l'homme et sur la thématique spécifique du devoir de fraternité.
Ouais.
Du coup, c'était effectivement c'est une reconnaissance en fait de notre travail au quotidien depuis 30 ans, à la fois sur les zones d'attente, pour les personnes privées de liberté et aussi aux frontières intérieures. Mais c'est également une reconnaissance, ou en tout cas, c'est de toutes les personnes en fait qui sont poursuivies pour leur travail en fait de solidarité envers les personnes exilées,
oui,
ce qui pour nous est un acte politique extrêmement fort de la part de la CNCDH,
ouais.
Qui du coup s'est positionnée en soutien aux associations qui œuvrent aux frontières,
ouais.
Et du coup qui était aussi un petit peu interrogeant en tout cas parce que la remise des prix a eu lieu au ministère de la Justice par la ministre de la Justice elle-même, sachant qu'il y a de nombreuses personnes malheureusement qui sont encore poursuivies pour délits de solidarité actuellement.
Voilà, qui sont poursuivies, condamnées. On était au début de cette émission avec Michel Rousseau donc de Tous Migrants et ça donne un effet un petit peu schizophrène quoi.
C'est ça, effectivement.
Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, donc là on a beaucoup parlé, et c'était la raison de ton appel, hein, de cet arrêt du Conseil d'État, et je crois qu'il y a une actualité très chaude aussi aux frontières, donc notamment à Briançon, mais aussi à Hendaye, mais aussi sur toutes les frontières.
Oui. Effectivement, la semaine dernière, il y a une demande de commission d'enquête parlementaire qui a été lancée à l'initiative de plusieurs associations et pour demander en fait justement une commission d'enquête parlementaire pour notamment relative aux violations des droits qui sont observées par nos organisations, mais aussi par la CNCDH, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits. Et donc, la semaine dernière, effectivement, on a appelé à les parlementaires à réaliser une commission d'enquête sur ce sujet, sachant qu'il y a quelques semaines, plusieurs parlementaires européens, mais aussi nationaux, se sont vus refuser l'accès aux lieux privatifs de liberté à Menton. Ce qui pose un problème, en fait, en termes de droit de regard des associations des parlementaires, de la société civile en général, dans des lieux où on sait qu'il y a énormément de violations des droits humains au quotidien.
Oui, c'est... Et puis donc là, il y a plein... Bon, de toute façon, je crois qu'on pourra refaire très vite une émission, notamment sur une frontière dont on avait peu parlé jusqu'à présent, qui est Hendaye.
Oui, effectivement, oui. Effectivement. Ça fait partie des éléments sur lesquels on pourra revenir rapidement, oui.
Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Laure, peut-être tu as des choses à ajouter ?
Bah, vous pouvez aller sur le site de l'ANAFE pour consulter un petit peu nos actions et nos actualités.
Oui.
Et c'est vrai que actuellement, mais comme toutes les structures, je pense, à l'ANAFE, on rencontre pas mal de problèmes financiers. Et c'est vrai que si le prix des droits de l'homme est une reconnaissance de notre travail, on rencontre pas mal de difficultés en ce moment. Donc si vous souhaitez soutenir nos actions et nous aider à continuer notre travail, n'hésitez pas.
Voilà, bah, je crois que c'est... Ouais, on va mettre en place un système d'économie circulaire et chacun se soutient parce que sinon on va tous mourir.
Exactement, ouais.
Voilà.
Mais je te remercie beaucoup en tout cas.
Ben écoute, moi je te remercie beaucoup et puis j'espère que la prochaine fois tu pourras venir sereinement par les transports en commun.
Oui.
Et qu'on aura gagné cette grève et voilà.
Oui, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup, Laure, et
à
puis
bientôt.
À très très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute du RESF, hein, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Pour se connecter sur le site de l'ANAFE, c'est très simple. Vous faites anafe.org, anafe.org, et vous irez dessus. Et je propose que, avant de passer à notre agenda, on fasse une petite pause musicale en écoutant peut-être pas tout, mais au moins un morceau de Un gamin souffri maracas.
La French Connection, une organisation mafieuse.
Je suis venu chercher du travail. J'espère qu'il y en aura. Je suis venu de mon lointain pays pour travailler chez vous. J'ai tout laissé, ma femme, mes amis, au pays tout là-bas. J'espère les retrouver tous en vie de mon retour. Ma pauvre mère était désolée en me voyant partir. Je lui ai dit qu'un jour je reviendrai mettre fin à sa misère. Regardez-moi, je suis fatigué d'aller par les chemins. Voici des jours que je n'ai rien mangé. Auriez-vous un peu de pain? Mon pantalon est tout déchiré, mais je n'en ai pas d'autre. N'oubliez pas, ce n'est pas un scandale.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et eh bien, ce n'était pas Un gamin souffri maracas, mais on a réécouté le début au moins de « Je suis venu chercher du travail » de Francis Bébé, mais... C'est pas grave, on l'aura écouté deux fois, mais comme c'est une très très jolie chanson, eh bien, tout le monde sera content. Et donc, il est temps maintenant de passer à notre petit agenda, mais avant de passer à l'agenda stricto sensus, on va laisser FPP annoncer elle-même ce qu'elle a annoncé pour vendredi 14.
La French French Connection, une organisation mafieuse.
C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pure.
Journée du livre FPP. Samedi 14 décembre 2019, de 16h à 22h. Fréquence Paris Pluriel vous invite à la première édition de sa journée du livre, cette année consacrée aux romans noirs ou policiers. Nous aurons comme invité Gérard Delteille, auteur de Les Écœurés, paru en mai 2019 au Seuil, et David Dufresne, auteur de Dernière Sommation, paru en octobre aux éditions Grasset. Une séance de dédicace des deux auteurs aura lieu après l'émission. Une librairie FPP proposera sur place environ 2000 livres d'occasion et neufs. Boissons et petites restaurations sur place. Radio FPP 106.3 FM, 1 rue de la Solidarité, Paris 19e.
Et donc, pour compléter donc ce petit jingle FPP sur à propos du salon du livre FPP, eh bien, il y aura aussi Priscilla Ludowski, qui est auteure de En France, Donner son avis peut coûter cher, qui est paru en septembre 2019, qui sera là. Voilà, et donc tout de suite, donc, notre agenda en dehors de ça. Donc, on va commencer par vendredi 22. C'était une erreur. Donc c'est samedi 13 décembre. Vendredi 13 décembre, autrement dit, après-demain à 14h30, place de la République, ce sera la manifestation hebdomadaire de la CSP 75, coordination parisienne des sans-papiers. Et puis samedi 14 décembre à 18h, ce sera une rencontre donc avec Jean-Pierre Fournier, qui nous présentera son ouvrage Apprendre solidaire aux côtés des élèves migrants. C'est un hors-série de notre école et c'est dans les locaux de Solidaire, 31 rue de la Grange-Aubelle, métro Colonel Fabien ou Jacques Monsergent. Et puis samedi 14, il y aura beaucoup de choses à faire, hein, puisque de 16h à 22h, on vient de l'annoncer, c'est la fête du livre AFPP. Donc avec Priscilla Ludowski, hein, qui est auteure de En France, Donner son avis peut coûter cher, paru en septembre 2019, avec Gérard Delteille, auteur de Les Écœurés, qui est paru en mai 2019, et David Dufresne, auteur de Dernière Sommation, paru en octobre aux éditions Grasset. Et il y aura bien sûr donc émission en direct et en public, et séance de dédicace. Et puis toujours samedi 14, donc ce sera un tout petit peu après ça, enfin ça commence un petit peu avant mais ça finira bien après, c'est le Noël solidaire au crapaud à Vitry-sur-Seine, 14 avenue du président Salvador Allende, donc à Vitry, avec entre autres les grévistes sans papier de Chronopost. Et mercredi 18 décembre, donc à 18h, c'est la manifestation internationale, donc mardi déjà 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. À 18h, il y aura la manifestation égaux, égales, personne n'est illégal, place de la République. Et à 19h, au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, une table ronde qui s'appelle « La crise migratoire n'a pas eu lieu », organisée par Migreurope. Donc sur la crise de l'accueil des migrants, le réseau Migreurope, il présentera l'ouvrage collectif « La crise de l'accueil, frontières, droits, résistance » aux éditions de La Découverte, en présence de plusieurs auteurs et membres du réseau. Voilà, donc je vous dis, je vois que les oreilles loin du front, excellente émission, s'installe dans le studio. Et moi, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Et merci Leïla à la technique.
OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.